Imaginaire, c'est le rendez-vous incontournable pour les amoureux et amoureuses de la pop culture. Un mardi sur deux à 21h, on parle littérature populaire, mais aussi jeux, ciné, séries, avec des chroniques, des interviews, sans oublier les invités et l'actualité. Imaginaire, c'est un mardi sur deux à 21h sur Radio G 101.5.
L'équipe vous a enregistré les chroniques. On commencera par Karine qui a lu Le Monde de Julia, d'Hugo Bellagamba et Jean Barré. Jean-Hugues a regardé beaucoup de séries et pas mal lu. Sébastien aura un invité pour nous parler du premier livre-jeu Dofus. Et en deuxième partie d'émission, nous écouterons l'interview d'Elisa Bayram enregistrée aux dernières Utopiales. On commence en musique avec Ravage Club qui seront en concert au Joker's Pub le 19 janvier. Une reprise des Runaways.
Des coups d'enfer, des coups de foudre. Je n'en ai que faire quand me porte la foule. Dans la fosse, tous les yeux dévorent. Je suis la force que tu veux si fort. Hello papa, hello mort. Jerry Bond, hello.
Présenter Le Monde de Julia, écrit à quatre mains par Hugo Bellagamba et Jean Barré, publié par les éditions Nemos sous le label MU. Nous sommes propulsés dans un avenir post-apo où nous rencontrons Julia, une petite fille âgée de 10 ans, abandonnée par ses parents aux bons soins d'un robot nommé Roland 17, qui est à la fois son enseignant et son protecteur. Ces deux personnages sont complètement isolés dans la montagne, éloignés de tout le chaos autour d'eux. C'est lorsque Roland 17 s'éteint, car il est malheureusement au bout de ses réserves énergétiques, que Julia va partir à la recherche de ses parents. Nous allons donc suivre son voyage un voyage initiatique et philosophique. En parallèle, nous rencontrons notamment Darius et Artaban, deux frères qui font partie d'un clan, celui des laboratoires. Avec eux, nous allons découvrir les différents clans des chercheurs qui tentent de nombreuses expériences sur les tribus voisines pour comprendre ce que c'est une société parfaite et la créer. Chaque clan répond à des règles issues de diverses références littéraires, de science-fiction ou de culture populaire par l'intermédiaire du cinéma. Ce roman est donc constitué de deux trames qui se répondent l'une à l'autre et de plus en plus au fil du récit, mettant en avant des réflexions sur le vivre ensemble, la justice, le droit, l'égalité, la liberté et la société. Des questions essentielles qui touchent chacun et chacune de nous. C'est un conte de philosophie juridique surprenant, décalé et fluide, avec des chapitres courts et dynamiques. Les plumes d'Hugo Bellagamba et Jean Barret sont entraînantes et vous captivent dès le début du récit. Il nous pousse à réfléchir sur la société d'une manière légère, avec humour, et cela donne très envie d'approfondir le sujet via d'autres textes et de découvrir les nombreuses références que vous pourrez y trouver. Le monde de Julia est né tout d'abord d'une idée d'Hugo Bellagamba et c'est en parlant avec Jean Barret que ce livre a pu voir le jour, ne laissant aucune place au doute. Et cette coécriture donne un récit magnifique, brillant et novateur. Pépite de réflexion, de pensée, de philosophie et de justice. Hugo Bellagamba est écrivain, novelliste et essayiste et a reçu en 2019 le prix Rosny Aîné de la nouvelle pour Chimère, paru dans le numéro 36 du Bifrost, et le grand prix de l'imaginaire pour son essai Solution non satisfaisante, publié par Les Montons électriques. Et en 2010, il a également reçu le prix Rosny Aîné et le prix européen utopial des Pays de la Loire pour Tancrède. Il est également maître de conférences en histoire du droit et des idées politiques. Jean Barret, quant à lui, est un romancier remarqué pour sa trilogie Trademark, publiée par Le Bélial, sélectionnée plusieurs fois par le Grand Prix de l'Imaginaire. Il exerce aussi en tant qu'avocat au barreau de Paris. Je vous invite à découvrir vraiment cette histoire et suivre les actualités de ces deux auteurs. Et j'en profite également pour vous évoquer brièvement le dictionnaire utopique de la science-fiction écrit par Hugo Bellagamba et publié par Le Bélial en octobre. C'est une véritable mine d'or, d'infos, de compréhension par l'intermédiaire de 32 entrées. Âge d'or, anthologie, architecture, artefacts, bibliothèque, code, contact, convention, cyberpunk, dystopie, femme, fin du monde, formation, gouvernement, histoire du futur, institution, intelligence, jeu, justice, machine, Mars, mégalopole, nature, origine, planète prison, pouvoir, religion, ruine du futur, solarpunk, uchronie, vaisseau monde, violence. C'est un panorama unique traçant les origines et les différentes formes de l'utopie dans la science-fiction. Hugo Bellagamba pose ses réflexions à travers les connaissances qu'il a obtenues jusqu'ici, mettant notamment en avant des auteurs français et des autrices françaises, sans oublier les anthologistes et les commentateurs. Un petit bijou donc de connaissances, de références littéraires et d'analyses du genre à ne pas louper. Et je vous laisse avec le groupe Amon Amarth et leur dernière chanson Saxon and Vikings, sortie ce mois-ci sur Radio G.
Crowd. It doesn't matter if we stay. Alors voilà, donc tu m'avais posé la question à propos de la transposition qu'on pourrait trouver sur le jeu Dofus dans les livres-jeux du même nom. Moi, ce qui m'intéresserait, franchement, ça serait déjà qu'on retrouve forcément l'humour qui se dégage du jeu, mais aussi les noms de monstres et les lieux, hein, bien évidemment, hein, qu'on retrouve, hein, il faut qu'il y ait une cohérence. Le truc, par contre, ce que j'aimerais, moi, franchement, c'est qu'il y ait des classes différentes. C'est-à-dire, je m'explique, un livre, une même aventure, mais avec une classe différente. Comme ça, on pourrait jouer à plusieurs joueurs autour d'une table, avec chacun son livre, et vivre la même aventure ensemble. Comme ça, on peut la jouer séparément en solo, mais on pourrait la jouer aussi ensemble jusqu'à 8 joueurs et s'aider ensuite à aller dropper, c'est-à-dire récolter des loot en jeu, quoi, en fait, et sur les monstres, et on s'aiderait comme ça à récupérer ses ressources pour pouvoir crafter ses propres équipements. C'est principalement le côté communautaire, moi, qui m'intéresse dans Dofus et que j'aimerais retrouver sur les livres-jeux. Chose qui, malheureusement, sur le jeu aujourd'hui, n'est plus très communautaire, sauf par intérêt personnel. Et c'est pas ce que j'ai pu connaître vers les débuts. Attention, je dis pas que c'était mieux avant, mais au niveau de la communauté, c'est plus la même, on va dire. Et puis, bien sûr, les loots aléatoires, hein, bien sûr, sur les livres-jeux. Voilà, donc moi, c'est principalement ce que je rechercherai sur le livre-jeu. Voilà, merci.
La voix amie que vous venez d'entendre est celle d'Alec, qui anime une chaîne sur Twitch, ayant pour objet, entre autres, de présenter de cool jeux vidéo, tels Dofus, jusqu'à des pépites sur console tombées dans l'oubli. La philosophie de sa chaîne, il la résume ainsi, en un regroupement de personnes qui regardent le passé avec nostalgie, mais qui regardent devant eux et savent s'adapter sans aller dans le c'était mieux avant. De l'humour sans en faire des tonnes, ça oui Alec, il est bel et bien présent dans Les Vents d'Émeraude, le premier livre-jeu de 300 paragraphes de l'hexalogie Dofus, édité par Bayard Jeunesse, qui se joue kin sans dé. Vais-je devoir enregistrer à force un nouveau générique en 2024 sans le bruit du dé ? Le fait que l'âge du public, à qui s'adresse la série livresque Dofus, est de 10 ans ou plus, ne signifie pas que l'humour soit gamin, car l'amusement est déclenché par des jeux de mots bien glissés. En voici un exemple pris lors d'une initiation au combat, face à un épouvantail transformé en mannequin d'entraînement. À moins qu'il n'ait une botte de paille secrète. Et la cohérence, en effet, Alec, au jeu vidéo Dofus, apprécié grâce à toi sur ta chaîne, est un des points forts qui ne manque pas de l'ouvrage Les Vents d'Émeraude, écrit comme il est indiqué en double couverture par un concepteur du jeu. Eh oui. Le principal cadre de l'aventure ici est l'île céleste d'Incarnam, où le jeune héros qu'on incarne y est amené à patrouiller, ce qui permet d'en apprécier dans le détail l'ensemble des paysages et sites pittoresques. Il s'agira de débusquer entre autres le Dark Vlad, un guerrier à l'épée de feu tombé dans le côté obscur de Dofus, possesseur d'un des ciseaux de dragon, les fameux Dofus, qu'on convoite en tant qu'héros. L'humour de Dofus, chers auditeurs d'imaginaire, semble m'avoir joyeusement contaminé, jouant avec les mots. À vous de retrouver lesquels. Bref, pour en venir aux classes de personnages que cite Alec, si elles sont au nombre de 12, ayant à en choisir une avant de démarrer l'aventure, cela ne débouche pas à ce que plusieurs lecteurs-joueurs se réunissent autour d'une table pour jouer au livre-jeu Dofus, contrairement au livre-jeu du premier cycle des défis et sortilèges du magicien des mots, l'auteur Gildas Sabo. Néanmoins, qui dit qu'à l'exemple d'Alec, Yop au départ, classe de personnage guerrier, après avoir tout perdu, donc, je deviens un SRAM, classe de personnage voleur et assassin. Alors ça, c'est pas mal de pouvoir changer de classe, l'idée en tout cas de changer donc de Yop à SRAM ou en toute autre chose, pourquoi pas. De fait, des paragraphes de Les Vents d'Émeraude ne sont accessibles, les amis, qu'en étant telle ou telle classe de personnage. La rejouabilité serait-elle donc, dites-moi, une des forces du dit roman interactif ? Eh bien, quel dommage de vous avouer, auditeurs du 101.5 FM, que c'est non. Parce qu'à l'instar de la patrouille à mener autour d'Incarnam, pour être sûr qu'il n'y a aucun danger caché, le parcours qui en résulte est quasi fléché. Au point que des déviations permises à la fin de paragraphe enrichissent plus le background que le ludisme. Cependant, Alec, les combats au tour par tour du jeu vidéo Dofus sont bien retranscrits sur papier via des paragraphes aux numéros soulignés. Quel plaisir j'ai retiré de me frotter à mon premier grand ennemi de la partie. Une araigne des cavernes, araignée géante, arachne. Là aussi, bah, je trébuche là maintenant sur les lettres. Et de tout faire en quelques assauts pour échapper à sa toile gluante en décidant quelles attaques, quelles défenses, opter sous forme de choix à prendre qui remplace les jets de dés. C'est des mini-combats scénarisés de bonne facture. Franchement, le gameplay est plein de bonnes trouvailles, l'auteur proposant même toute une partie détachée du corps de l'histoire qui s'étend, elle, sur 50 paragraphes, nommée la taverne de Grovide. Un lieu en guise de sauvegarde où il est possible de s'équiper, de restaurer complètement ses points de vie, voire de récolter des informations. Des loots, c'est-à-dire des récompenses, ici plutôt tranquilles, nous tombent presque dans le bec. Alec, à la taverne multifonctionnelle. Pour conclure, les vents d'émeraude est un livre-jeu des plus distrayants qui ravira la communauté de Dofus, d'après moi, tout comme les personnes qui cherchent une imaginative porte d'entrée dans l'univers de Dofus. Et je me joins avec l'équipe d'Imaginaire pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année à tous et toutes, qu'elles vous apportent joie et santé. Après mes traces d'aventurier restituées, écoutons celle de Linda Williams sur le 101.5. Bye bye!
Félicitations, Edgy, c'est un calamar.
Chers auditeurs, ma chérie, bonsoir. J'ai regardé quelques trucs à la télé. D'abord, la première moitié de la saison 6 de Yellowstone. Mais si, vous savez, dans le Montana, je vous en avais fait une chronique, c'est la famille Dutton qui a un ranch énorme. John, le patriarche, s'est fait élire gouverneur du Montana et du coup, il annule toutes les carabistouilles des méchants capitalistes. Bon, bah du coup, ça fout la zone. Tout le monde lui en veut et même son fils avocat se retourne contre lui après avoir joyeusement copulé avec une call girl maligne des capitalistes, ceux des carabistouilles. Heureusement, pour la série, il y a Beth Dutton, splendide rousse au caractère de pitbull. Bon, je regrette de le dire, mais c'est un peu mollasse, mais la deuxième partie qui va sortir l'année prochaine va sûrement être géniale. Alors, j'ai aussi regardé Travelers, 3 saisons. Bon, bah, c'est un peu de la SF, hein, vous n'allez pas le croire, mais dans le futur, ça ne se passe pas bien. On ne se demande même pas pourquoi d'ailleurs. En fait, si, on sait pourquoi. Et du coup, il y a une intelligence artificielle vachement balèze. Non, c'est pas ChatGPT ni Midjourney, j'ai dit vachement balèze. Le directeur, donc, qui a réussi à mettre au point un appareil qui envoie les consciences de volontaires écraser celles d'habitants du 21e siècle, c'est nous, et prendre leur place. Alors, comme le directeur est très gentil, il envoie les consciences de ses soldats dans la tête de gens qui vont mourir dans les secondes qui suivent. Donc, du coup, techniquement, c'est pas grave. Bon, techniquement. Et il a des groupes de 5. Alors, il y a un chef et 4 spécialistes qui vont avoir des missions. Alors forcément, ça merdouille un peu, puisque par exemple, il y a une conscience qui est envoyée dans la tête d'un héroïnomane. Bon. Et l'autre dans celle d'une dame qui, cognitivement, est à la ramasse. Elle est très très basse de plafond. Bref, on arrive à remettre non sans mal les bouts en place. Bon, c'est plutôt sympa, les personnages sont attachants et les rebondissements sont bien faits. J'ai regardé aussi Witcher saison 3. Alors, sans revoir ceux d'avant. Et ben là, c'est le souk. Mais on s'y retrouve aussi. Alors, c'est un peu mollasson. Mais les filles, profitez-en, c'est la dernière fois que le magnifique monsieur qui joue le Witcher joue dans la série. Alors, est-ce qu'ils vont nous faire une galipette avec Doctor Who pour le remplacer? Nous ne savons pas. Enfin, j'ai regardé Lyonnaise. Alors, Lyonnaise, ça compte l'histoire d'une équipe action d'essayer, mais putain d'action, les tentatives d'infiltration d'une des leurs afin de choper une sorte de Ben Laden. Je résume. Bon, faut savoir que seul le chef a une vie privée, bon, qui est compliquée en plus, avec son mari chirurgien talentueux, qui est très, très, trop cool. Ses gosses sont sympas, à part l'ado qui est une pure ado de série. Ouais, c'est l'horreur. Les scènes d'action sont bien foutues, presque ça ferait peur. Les magouilles politico-capitalistes, crédibles. Bref, une bonne mini-série d'espionnage. Alors j'ai vu des films aussi, alors beaucoup trop de basses américaines. Et puis les 3 mousquetaires, mais ça compte pas, il y a Eva Green. Alors, puriste de Dumas, laissez le canon à l'entrée du film, on va dire que l'on retrouve les noms des personnages et les ferrets. Un petit peu l'époque. Bon, les combats sont en vue subjective, ce qui fout un joyeux bordel, c'est que les épéistes, ça sautille. Mais le film est visible. J'oserais même dire que j'ai passé un bon moment, mais le genre KPP, c'est un petit peu un de mes dadas. Et puis, j'ai vu la dernière mouture de Dungeons & Dragons, l'honneur des voleurs, et là, j'ai bien rigolé car ils ont fait très fort. Les persos sont très sympas, et les joueurs du jeu éponyme n'hésiteront pas à faire « Oh, t'as vu, mais c'est ce monstre-là, ou c'est ce sort-là » C'est très bien foutu, l'action se passe dans les royaumes oubliés, et les sorciers rouges de taille foutent le souk pour changer. Et Ziva les dragons rouges, un peu gourmands, les cubes gélatineux, les ours hibou, un vrai paladin, etc. Bref, j'ai vraiment passé un bon moment. Et puis, malgré tout, j'ai lu quelques livres, dont 2 qui n'ont rien à voir avec la science-fiction et le polar, mais je ne résiste pas. Alors celui d'un auteur espagnol, Ramón Gómez de la Serna, pour un livre intitulé « Cinéville » qui pourrait passer pour une chronique sarcastique de la vie à Hollywood. Outre la construction même du roman qui se divise en descriptions d'archétypes du cinéma, genre le ténébreux, les traîtres, la femme lumineuse, les gros, etc., nous suivons quelques personnages dans leur destin dans la ville du cinéma. Outre la composition même du texte, la chose remarquable, c'est le fourmillement de références et la poésie de ce roman magnifiquement ciselé qui date des années 20. Oui, des années 1920. Et d'ailleurs, en 1923, P.G. Wodehouse commençait à écrire les aventures du majordome Jeeves. Alors ça se passe à Londres où Bertie, un oisif rentier d'une trentaine d'années, est traîné dans des aventures généralement familiales ou amicales dont il ne sortirait qu'avec grande difficulté s'il n'y avait son majordome Jeeves, particulièrement malin et au réseau d'informations lié aux autres valets majordomes des grandes familles. C'est très drôle. Je viens de finir l'inestimable Jeeves qui est le premier roman et je me suis positivement régalé. Mais avouons-le, je suis un immense fan de littérature anglaise. Et puis, j'ai lu du polar. Alors, j'ai lu « Auteur de crimes » de Christophe Markodianakis pour ses aventures du capitaine Markou. Alors, le capitaine Markou, c'est une bête de travail. C'est un policier très doué. Ses collègues et patrons l'estiment pour ses qualités. Il est bibliophile polar en plus. Et c'est ça qui va entraîner son enquête, puisqu'il poursuit un tueur en série qui utilise sa première rangée en haut des romans pour copier les crimes en fonction de ceux qui se déroulent dans ce roman. Et en plus de ça, il laisse des indices pour que les gens ne soient pas perdus. Alors, j'ai rien spoilé, pas de panique, c'est dans les premières pages du roman. Bon, dire que c'est le roman de l'année serait un petit peu exagéré, mais le principe est sympa et les personnages attachants. Markou se plante très régulièrement dans ses déductions, mais son opiniâtreté et ses compétences devraient lui permettre d'arriver à la résolution finale qui ne manque pas de sel. Et puis j'ai lu Pandémonium de Sylvain Carmicci. Alors là, ce n'est pas du tout calme comme roman. Pandémonium, comme tout le monde le sait, c'est la capitale de l'enfer. L'action se déroule dans et autour d'un cinéma bien cloque, un cinéma de film porno, le Léviathan. Tu vois la ref ? Où règne en maître absolu Jacob, tu vois là. Bon, ok, j'arrête. Qui, de derrière l'écran, transmet ses ordres, conseils et avis à ceux qui veulent bien l'écouter. Et là, il y a une équipe guidée par on ne sait pas bien qui est envoyée l'éliminer. C'est d'une glauquitude absolument remarquable. Le cinéma est environné de petites salles, par exemple, où l'on tourne des snuff movies qui sont diffusés aussitôt dans d'autres petites salles, etc., etc. Effectivement, c'est l'enfer. Les personnages sont très typés, le décès de certains d'entre eux m'ont laissé froid comme une banquise plutonienne. Un livre dont on ne sort pas intact, mais qui a la particularité d'une immersion dans le monde du mal, bien trop humain pour s'en détacher sans dégâts. Eh bien, le Jeeves, je l'ai lu après celui-là. Bonne fin de soirée.
avant-dernier jour pour l'imaginaire, on est aux Utopiales toujours, et je suis cette fois en compagnie d'Elisa Deyrem, autrice d'un premier roman Rêveur Zéro et d'un second roman Le Premier Jour de Paix, publié en août 2023, et qui a été dans la sélection pour le prix Utopiale. Donc, dans un premier temps, on va parler de Rêveur Zéro, et je voulais te demander quel retour ou ressenti as-tu eu suite à sa publication, puisqu'il explore quand même une pandémie qui fait écho à celle qu'on a connue.
Eh bien, justement, comme il est sorti en plein Covid, ça a été particulier, parce que d'habitude, la sortie d'un livre, ça va avec des salons, des rencontres en librairie, et ça n'a pas été le cas pour Rêveur Zéro. Donc, pendant un très long moment, c'est comme s'il n'était pas sorti, enfin, il ne se passe rien, et ça a été qu'un an plus tard, après, aux Utopiales, que j'ai rencontré des gens. Comme c'est quand même une épidémie un peu particulière, c'est une épidémie de rêve qui se matérialise dans la réalité. J'ai pas eu de retour sur cette question du Covid. Un des retours quand même, c'était la pression sur le système de santé qui est développé dans le livre. Donc là, il y avait des parallèles, et c'est vrai que les gens ont réagi par rapport à ça, mais sinon plutôt disons que le point de focus, c'est plutôt le rêve et tout ce qu'il peut dire dans cette épidémie, quoi.
Et toujours dans Rêveur Zéro, tu abordes des problématiques politiques, mais dans son second roman, Le Premier Jour de Paix, tu vas encore plus loin en traitant des solutions. Cette volonté d'exprimer et d'explorer plus de positif vient d'où ?
D'un besoin, d'une lassitude à lire beaucoup de dystopies, de post-apo. Il y a de quoi se laisser abattre, mais justement, mon idée, c'était de faire un pari sur l'avenir et de me dire, bon, maintenant, comment est-ce qu'on pourrait faire pour reconstruire une société malgré la pente qu'on a l'air de descendre. Et c'est ça le pari du Premier Jour de Paix, c'est ne pas faire l'impasse sur les difficultés actuelles et futures. Et malgré ça, donner un espoir. C'est d'abord pour me donner de l'espoir à moi.
Voilà. T'as eu des inspirations justement pour créer ton univers.
J'ai, en fait, ce livre-là, il a été écrit en réaction à un bouquin de Steven Erikson qui s'appelle Réjouissez-vous, dans lequel, au début, plus aucune violence n'est possible sur Terre. Donc les coups de poing s'arrêtent, les balles tombent. Et on se rend compte rapidement que ce sont les extraterrestres qui sont intervenus pour stopper toute violence, parce que décidant que l'humanité était dans une impasse et qu'elle allait s'auto-détruire. Et j'ai trouvé ça... moi, je me dis qu'on est capable d'y arriver. C'est ça, dans le Premier Jour de Paix, quoi, qui est important. C'est que c'est... Il n'y a pas quelqu'un qui va venir nous sauver. C'est à nous de faire le travail. Et c'est vraiment ça qui a été important pour moi. Et j'ai fait beaucoup de recherches, du coup, sur la résolution de conflits. C'était un sujet que je ne connaissais pas du tout. Pour moi, la paix, c'était... je pense un peu pour tout le monde pareil. C'est un concept un peu abstrait, un idéal inatteignable. Alors que quand on commence à lire sur ce sujet, on se rend compte que la paix, c'est concret. C'est pas l'absence totale de conflits ni de violence, c'est la capacité à résoudre ces conflits de manière positive. Et quand on commence à chercher sur ce sujet, on se rend compte qu'il y a plein de centres de recherche sur la paix, il y a des associations sur la communication non violente, et il y a les médiateurs de conflits à l'échelle des pays. Et en fait, il y a tout un tas de dispositifs qui existent déjà, mais finalement, on ne les met pas trop en avant, et c'est pas... Voilà, je trouvais ça bien de se servir de la fiction. La fiction, quand même, toujours l'objectif, c'est de raconter une histoire, d'avoir des personnages forts. Mais ces personnages peuvent porter un propos, et c'est ça que j'ai voulu faire dans le Premier Jour de Paix.
Et justement, à propos de tes personnages, ils œuvrent chacun à leur niveau. Et est-ce que tu peux nous en dire davantage sur ce point ? Qu'est-ce que tu as voulu illustrer à travers ces personnages ?
Je voulais, comme tu le disais, illustrer tous les niveaux, toutes les échelles du conflit. Il y a le fait de dépasser sa propre violence, avec un personnage qui est un vieillard qui vit dans un village rongé par la vendetta, qui lui-même a un passé violent, mais qui est fatigué de tout ça, et qui va ramasser des coquillages sur la plage pour construire, enfin faire des constructions en coquillages. Là, c'est l'idée de l'art comme acte, voilà, capable de nous transformer, de dépasser la violence. On a un deuxième personnage qui est émissaire et qui va de communauté en communauté pour résoudre des conflits, réparer, enfin trouver des solutions à des problèmes. Et on a un troisième personnage à l'échelle mondiale qui essaie de faire signer un traité de paix à des aux puissances en place, sachant que le monde ne ressemble plus, enfin il n'y a plus les pays tels qu'on les connaît aujourd'hui. Et il y a comme un effet de dézoom. Donc de à travers chaque personnage, on voit, on comprend un petit peu mieux comment le monde fonctionne et on comprend une nouvelle échelle de la paix et des conflits.
Et justement, est-ce que tu peux nous en dire, enfin, est-ce que tu peux nous parler de ton travail d'écriture également? Comment t'as conjugué à la fois les recherches bibliographiques que t'as faites et le travail d'écriture par la suite?
Comme je disais que je connaissais pas grand-chose à ce sujet, j'ai, enfin, j'ai un mode de fonctionnement qui est que. Déjà, je planifie beaucoup. Enfin, y a deux clubs dans les, chez les auteurs. Il y a ceux qui font des plans et ceux qui se mettent devant leur clavier et paf, voilà, ils écrivent un livre. Ma technique, c'est que je vais faire un jet après l'autre. Donc, je commence un premier jet, je vais au bout. C'est-à-dire que je ne reviens pas sur ce que j'ai déjà écrit. Parce que là, l'objectif, c'est de ne pas... perdre du temps, c'était pas bien. Il faut faire le premier jet. C'est, là, je fais une petite parenthèse. Pour ça, le nanovrimo, je sais pas si vous connaissez, donc c'est un espèce de concours, mais il n'y a pas de compétition. Il y a des milliers de gens autour du monde qui se rassemblent au mois de novembre, et l'objectif, c'est d'écrire 50 000 mots en un mois, ce qui est assez conséquent, mais comme il y a cette espèce d'effervescence, ça aide énormément. Et ça, c'est un super bon outil, justement, pour tomber un premier jet, pour avoir une base de travail. Et après, on revient sur cette base, et là, on peut commencer à travailler le texte, mais aussi à ajouter des choses. Et puis, voilà, à chaque fois qu'on va réécrire, la structure est de plus en plus mise en place, et on peut de plus en plus toucher le texte.
Est-ce que ça a été plus difficile de faire du coup un second livre plus court que ton premier roman?
Pas du tout. non, ça a été. Enfin, j'ai mis beaucoup moins de temps à l'écrire. Mais la raison, en fait, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont. Enfin, je pense tout le monde a ce défaut de la première œuvre, que ce soit un livre, même un jeu vidéo. On veut tout mettre dans sa première œuvre, et River Zero, c'est un peu ça. Oh là là, enfin ça part dans tous les sens, il faut que je dise tout. Il y a un peu ce truc de se dire c'est le premier et le dernier, alors que dans Le Premier Jour de Paix, je savais ce que je voulais dire, j'avais un propos, et donc finalement le texte, il fait la longueur qu'il fait. Je voulais qu'il soit court parce que je aussi pour des raisons de toucher un plus large public. Enfin, évidemment, même moi, quand je vois un pavé, je vois par exemple, il y a plein de temps, j'ai lu Utopia de Camille Le Boulanger. j'ai mis très longtemps à le lire parce que je voyais les épisodes du bouquin, je me disais oh là là, enfin, je suis sûre que je vais aimer, mais c'est et donc voilà, pour ça que j'ai écrit aussi un roman court qui se suffit à lui-même et qui raconte tout ça. Mais ça a été assez rapide.
D'accord. Et par la suite, est-ce que le travail éditorial a pris plus ou moins de temps? Enfin, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Eh ben, ça a doublé le temps. En fait, le travail éditeur, il y a un travail sur la structure, sur le texte. Anecdote intéressante, c'est que actuellement, on suit toute l'histoire d'un personnage, puis toute l'histoire du second, et c'est ça qui fait cet effet de dézoom aux différentes échelles. En fait, au début, c'était pas écrit comme ça. C'est-à-dire que chaque chapitre changeait de personnage. Oui. Et ça faisait un effet un peu montagne russe où on changeait d'échelle tout le temps. Et ça a été une proposition de l'éditeur assez tard qui a dit « Mais en fait, si on rassemblait tous les chapitres par personnage, est-ce que ça marcherait pas mieux ?» Et je me dis « Mais j'y avais même pas pensé. » Enfin, voilà, j'avais écrit ça comme ça et ça marche vraiment. Ça rajoute du suspense, ça rajoute, ça facilite la compréhension aussi. Et je trouve que ça marche vraiment. Donc, pour parler de ce processus de l'éditorial, c'est vraiment passionnant parce que ça porte le texte à son plus haut niveau d'aboutissement, quoi.
Et tes projets 2024?
Eh ben, là, je travaille sur la préquelle du premier jour de paix. Donc, l'idée, c'est de partir du premier jour de paix et de revenir jusqu'à aujourd'hui. Là, le format sera totalement différent. Hein. L'idée, c'est que chaque chapitre, c'est une année. Oh. Et c'est aussi un format. Ça peut être un article de presse, un journal intime, une lettre, une nouvelle. Mais qui permet de tirer le fil, en fait, de comment est-ce qu'on pourrait passer de notre monde à ce monde-là. Je trouvais que c'était un peu facile de, allez, on saute 75 ans et puis hop, c'est le premier jour de paix.
Ouais.
Bon, ce qui me laisse penser quand même que ça va être, sûrement le contexte va être assez lourd, puisque il y a tout ce qui doit arriver entre les deux.
Et donc, c'est l'heure du portrait chinois. Si tu étais un personnage de jeu vidéo, lequel serais-tu ?
Oh là là, ces questions.
Est-ce que t'as pas un jeu vidéo sur lequel t'as beaucoup joué et un personnage ultra passionnant ?
Mais je pourrais pas dire que c'est moi. Crash Bandicoot. Est-ce que j'ai une tête de Crash Bandicoot ?
tu
je mange des pommes.
Hein. Tu peux te transformer. Là, aucun souci. Tout est possible.
C'est mon perso fétiche.
Ouais,
parce que c'est le premier jeu que j'ai eu sur PlayStation quand j'étais petite.
D'accord. Et du coup, si tu pouvais te téléporter n'importe où, que ce soit dans la réalité ou dans la fiction, quel endroit choisirais-tu ?
Je pense que j'irais sur la Lune pour voir la Terre.
Très bien. Et si tu étais sur une île déserte, quels sont les livres que tu emporterais ?
J'ai une difficulté avec cette question, c'est que je ne relis jamais un livre.
Ah.
Et je ne revois jamais un film. Bon, je dis ça, il y a quelques exceptions. Le Seigneur des Anneaux, voilà, c'est Noël, c'est le film de Noël. Mais.
Quels sont les livres que tu veux lire ?
Oui, c'est ça.
Ouais.
Eh bien, pour des raisons. Pratique, je prendrais un gros pavé parce que j'imagine que si j'ai beaucoup de temps, il faut que je lise, faut pas que prendre un petit bouquin. Bon, mais sinon, je pense qu'un livre que je relirais, c'est Cent ans de solitude de Garcia Marquez. J'adore Garcia Marquez, c'est un auteur qui m'influence beaucoup. Mais récemment, j'ai été assez déçue en relisant des bouquins que j'avais adorés. Donc, je me méfie maintenant et je crois qu'il faut pas faire ça. Enfin, il vaut mieux garder son souvenir.
Ouais. Eh bien, c'est l'heure de la question finale. Quelle musique choisis-tu pour accompagner cette interview ?
Eh bien, on va mettre Riff Cohen dans mon quartier.
D'accord. Merci beaucoup pour cette interview.
Merci à vous.
Dans mon quartier, on laisse les armes à l'entrée. Les cyniques, les critiques, les sceptiques, les bobards, les vantards, non ? N'ont pas d'accès. Dans les rues ça sent le lilas. On laisse le temps s'étaler. On voit le ciel en entier. On parle avec tendresse la liberté de la gentillesse. Dans mon quartier on laisse les armes à l'entrée. Les radins, les mondains, les malins, les pressés, les blasés. Non, n'ont pas d'accès. Les doigts car la musique c'est la loi. La 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 la. Dans mon quartier on laisse les armes à l'entrée. Les cyniques, les critiques, les sceptiques, les bombards, les vantards, non, non pas d'accès. Passeport, c'était rien. Dans mon quartier, vous êtes tous invités. Mais quand même, ce quartier faudra la vanter.
Voilà pour cette dernière émission d'Imaginaire de 2023. On se retrouve le 9 janvier sur l'antenne de Radio G. Avant l'interview d'Elisa Beiram, on avait écouté Side Reel Fortress avec le morceau Negli Occhi di una Chiaromante. Et on termine avec encore du Dungeon Synth de Noël. Cette fois, c'est Eli Villon avec un extrait de son album Full Moon Over Yuletide Eve.